Bienvenue dans Start to Scale, le podcast du Media Tribes qui vous donne accès aux conseils des meilleures startups pour aller plus vite. Je suis Eric Seclet et mon but, c'est de vous partager des méthodes actionnables, des retours d'expérience concrets et des bonnes pratiques éprouvées par les meilleurs entrepreneurs et employés de scale-up de la tech française. Mais juste avant de vous laisser avec votre mentor du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcasts. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Allez, bonne écoute! Allez, c'est parti, nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je suis avec Vincent qui est Head of Sales chez Partoo pour parler de la méthode MEDIC. Bienvenue Vincent.
Salut Eric.
Écoute, je suis super content de t'avoir à nouveau dans le podcast. Alors, la méthode MEDIC, c'est un process que vous avez implémenté chez Partoo depuis quelques temps. Donc, c'est une méthode de vente. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, donc MEDIC, c'est un acronyme qui veut dire metrics, le M de metrics, le E de economic buyer, le D de decision criteria, l'autre D de decision process, I de identify the pain et champion. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu vois, tu disais que c'était une méthode de vente. C'est un peu un abus de langage, parce que c'est plus simple de parler d'une méthode de vente, mais en soi, une méthode de vente, c'est plutôt spin selling ou alors la méthode de vente qu'une boîte peut avoir en interne. Et donc, on différencie une méthode de vente d'une philosophie de vente et d'un framework. Donc, une philosophie de vente, ça peut être par exemple Challenger Sales, Command of the Message, Customer Centric, et le framework, c'est-à-dire le cadre, là, ça peut être MEDIC. Donc, en gros, c'est une méthode qui va t'aider à mettre un cadre à ta technique de vente, à la technique de vente que tu as dans ta boîte.
Ok, très bien. Donc, c'est un cadre. Alors, dans quel type de vente, justement, c'est utile? Dans quel type d'organisation aussi c'est pertinent d'appliquer cette méthode?
En général, la méthode, elle est utilisée sur des cycles de vente qui vont être assez complexes, assez longs. Donc, je pense qu'il faut avoir des cycles de vente qui soient au minimum de 3 mois et jusqu'à 18-24 mois. Il faut que les paniers moyens soient assez élevés aussi. Parce que en fait, elle est intéressante parce que cette méthode va te permettre d'analyser ton opportunité, et donc il faut qu'il y ait de nombreux interlocuteurs dans ton deal. Donc il faut que le deal soit assez gros et qu'il y ait de nombreux interlocuteurs au sein de l'organisation pour qu'il y ait un intérêt à utiliser une méthode pour analyser ton opportunité.
Ok, donc c'est plus une question de taille d'opportunité plutôt que de taille de boîte.
Ouais, taille d'opportunité. Et donc le nombre d'interlocuteurs qu'il va y avoir dans ton deal.
Ok, très bien. Et si on fait un zoom sur les principaux piliers de la méthode, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment ça fonctionne tout ça?
Carrément. Alors, si tu veux, chaque lettre a une signification et la méthode, grosso modo, va te permettre d'aller découvrir tous les aspects qu'il peut y avoir dans ton deal pour être sûr de passer à côté de rien. Donc le M de métrique, c'est l'impact économique, ou en gros c'est le ROI, les KPIs sur lesquels tu peux avoir un impact. Le E de economic buyer, l'economic buyer, c'est le décisionnaire final qui peut soit créer une ligne budgétaire, soit l'obtenir. Le D de decision criteria, c'est tous les critères qui vont être utilisés par ton prospect pour comparer les différentes solutions qu'il rencontre. Le D, decision process, c'est toutes les étapes à parcourir pour aller valider le projet. Le I de identify the pain, c'est de pouvoir identifier les difficultés du prospect et après les augmenter. Ça, c'est le point le plus important. Et le C de champion, c'est la personne qui va avoir le pouvoir et la capacité de vendre en interne le projet. Et tu vois, ces lettres, elles sont organisées dans cet ordre-là, M, E, 2, D, I, C, mon avis, pour que le nom de l'acronyme soit audible. Mais moi, ce que je pousse, c'est plutôt de réordonner les lettres pour qu'ils correspondent au cycle de vente. Donc, chez Partoo, par exemple, on commence par le I de Identify the Pain, parce que c'est ce qu'on fait en premier dans une opportunité, dans un premier rendez-vous. Le C de Champion, parce que c'est sur le Champion que tu vas miser pour pouvoir vendre en interne, et donc c'est par lui que tu passes au début pour créer ton deal, etc., etc. Donc, réordonner les lettres pour que ça corresponde au cycle de vente.
Ok, super. Et par rapport à ton expérience de chez Partoo, donc Vous avez réordonné les lettres pour que ça colle à votre cycle de vente. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple de bonne pratique pour identifier les pains, enfin je sais pas des exemples de cette application et les résultats que ça a apporté chez vous.
Déjà juste sur les lettres, je te parlais de les réordonner, mais faut vraiment voir cette méthode comme une méthode que tu peux faire vivre et qui peut être adaptée d'une entreprise à une autre. Donc, il y a des boîtes qui ont été formées sur Medic et qui, au final, ont supprimé des lettres, en ont rajouté, ont modifié la signification des lettres, et d'autres qui en ont ajouté. Donc, c'est comme ça qu'est né le concept de MedPeak, avec le P de Paper Process. Donc là, c'est quand tu veux faire un focus très spécifique sur la partie administrative, le closing, la partie contractuelle, avec le légal, etc. Donc, plus les cycles de vente sont complexes, plus tu peux ajouter de lettres, théoriquement. Mmh. Tu peux aussi ajouter le C de compelling event, c'est quand tes deals ont tendance à glisser. Et là, l'objectif, c'est que tu sors le C de compelling event du decision process et tu fais en sorte de te focaliser à fond sur le compelling event.
Ok, c'est customisable.
Ouais, exactement. Et alors, pour répondre à ta question, pour rentrer un peu dans le détail, je vais prendre une thématique, celle de identify the pain et increase the pain. En gros, je trouve que les sales ont souvent tendance à vouloir identifier le plus de pain possible, et donc ils vont questionner le prospect afin d'identifier les pains qu'il peut avoir. Sauf que en général, on reste en surface de ces pains, de ces difficultés, alors que le but, c'est plutôt d'identifier celles qui sont les plus douloureuses et d'appuyer dessus, d'intensifier. Et pour te donner un exemple, une image, c'est en rugby, quand une équipe attaque et qu'il y a un regroupement de l'équipe attaquante à un endroit, et ben plutôt que d'écarter directement la balle, ils vont faire ce qu'ils appellent du pick and go. Donc ils vont appuyer plusieurs fois au même endroit pour rassembler l'équipe défensive au même endroit. Et une fois seulement que l'équipe défensive s'est rassemblée à cet endroit-là, et ben là ils vont écarter. Mmh. Et en fait c'est pareil dans l'idée de identify et increase the pain, c'est tu identifies la pain, tu appuies sur cette pain, et une fois que tu as suffisamment appuyé pour que le prospect ait envie de résoudre cette pain, alors t'écartes et tu changes de sujet. Et ça, en fait, c'est tout le long du cycle de vente. Medic va aider à mettre un cadre sur la pain, elle est différente d'un interlocuteur à un autre. La pain, elle peut évoluer entre le début de ton deal et la fin de ton deal. La pain, elle évolue en fonction de ce que tes concurrents ils vont mettre dans le crâne de ton prospect. Et donc voilà, en fait, c'est voilà un exemple d'application de comment Medic va t'aider à comprendre ce que tu sais actuellement, la current knowledge. Est-ce que tu ne sais pas le gaps in knowledge? Et après, quelles sont les actions correctives que tu veux mettre en place pour aller combler ce gaps in knowledge?
Okay.
Désolé pour les anglicismes, c'est une méthode américaine.
Ouais, une fois n'est pas coutume. Justement, peut-être, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi un peu les avantages par rapport aux autres méthodes de vente, enfin, par rapport à ton expérience sur des deals grands comptes? Qu'est-ce que tu vois comme avantage versus les autres?
En fait, je trouve que ça devrait vraiment se cumuler aux autres méthodes ou aux autres philosophies. Tu vois, je me pose la question en ce moment chez Partout, est-ce qu'il faut que j'ai une méthode de vente ou une philosophie de vente? Et donc, ce que je cherche à faire, c'est que on se forme et que tous les sales soient formés aux différentes méthodes de vente, aux différentes philosophies de vente, et qu'ils puissent un peu les choisir en fonction de leur caractère et de leurs besoins. Par exemple, j'avais un sales Clément Picard qui était passé par Humind School, qui est une école de vente, mais avant ça, il était consultant. Et il avait une approche qui était ultra consultative, très intéressante avec le prospect, mais par contre, il lui manquait cette capacité à maîtriser son rendez-vous et à maîtriser son cycle de vente, et surtout à être plus percutant avec son prospect, et moins dans le consultatif exagéré. Et donc, il a lu cette méthode, cette philosophie de vente, Challenger Sales, et franchement, du jour au lendemain, ça l'a énormément aidé. Il a eu une attitude différente en rendez-vous, et c'est lui qui a signé le plus gros deal de l'histoire de partout jusqu'à maintenant. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai envie qu'on soit formé sur les différentes philosophies, qu'après, les sales puissent un peu choisir celle qui va mieux correspondre. Et du coup, Medic, par contre, est l'épine dorsale de notre ce cadre, justement, qui va pouvoir sur lequel on est toujours centralisé, et donc toutes les équipes dans tous les pays, dans toutes les régions sont focalisées avec la méthode Medic.
Ok, super. Donc, c'est possible d'avoir différentes méthodes de vente pour coller justement au profil, aux différents profils de personnes que tu as dans ton équipe, mais tu as toujours ce socle qui est Médic, en tout cas chez Partout.
En fait, tu es obligé d'avoir un socle commun, tant pour le vocabulaire que... parce que le vocabulaire, si tu veux, quand on parle de l'economic buyer, d'une équipe à une autre, entre les Italiens, les Espagnols ou les Mexicains, on parle tous de la même chose. C'est la personne qui a la capacité de prendre une décision, de l'imposer, de dégager un budget. Quand on parle du champion, on parle de la même chose. Alors que ceux qui n'ont pas de méthode comme Médic, certains vont parler de champion, d'autres de sponsor, d'autres de... Chacun a un peu son vocabulaire et on parle jamais de la même chose. Donc là, quand tu as une équipe qui doit scaler rapidement, qui est internationale, qui est dans plusieurs pays, il te faut un socle commun. Et donc, c'est ça, en fait, que Médic te permet de faire, c'est d'avoir un socle commun, un référentiel commun.
OK. Et du coup, comment est-ce que tu mets en place cette méthode? En combien de temps? C'est quoi un peu ton retour là-dessus?
Je pense que le plus important, c'est de ne pas considérer que Médic puisse être implémenté avec une simple formation. Ça doit vraiment être implémenté dans tous les process de vente, dans tous les outils et surtout être vécu au quotidien. Et tu vois, je l'ai implémenté il y a 6 ans chez Partout et encore maintenant, c'est un combat du quotidien. Je dois le rappeler, je retourne voir les opportunités des sales, les country managers doivent le pousser. Enfin, c'est assez complexe dans la durée, mais par contre, à implémenter, en gros... il faut l'intégrer dans ces pipe stages, par exemple. Donc, les pipe stages, c'est les différentes étapes à parcourir pour faire passer une opportunité d'un stade à un autre. Mmh. Et en fait, Médic, tu peux mettre Médic dans ces opportunités pour passer d'un stade à un autre, tu dois remplir des critères. Et ces critères peuvent provenir de Médic. Mmh. Par exemple, pour passer du critère du stage 1 au stage 2, il faut que tu aies identifié le champion et il faut que le champion ait un intérêt personnel à pousser ta solution. Il faut que le champion ait accès à l'economic buyer ou qu'il ait un pouvoir de décision. Et tant qu'il n'a pas ce pouvoir de décision ou l'accès à l'economic buyer, eh ben, tu es bloqué à ce stage parce qu'il faut que tu ailles chercher un autre champion au sein de l'entreprise.
Ok, super intéressant. Donc ouais, il y a une interdépendance entre les stages en fonction de certains critères qui sont remplis ou non.
C'est ça, ouais. Tu vas avoir plusieurs lettres. Plusieurs critères dans les lettres, pour passer d'un stade à un autre, quoi.
Et du coup, comment est-ce que tu monitores tout ça? Parce que, comme tu l'as dit, ça se fait pas au niveau, enfin, ouais, la première chose, c'est que ça se fait pas avec une seule formation. Donc, ça doit transpirer dans tous les process. Et donc, qui dit process dit aussi outils, dit, j'en sais rien, tu vois, des meetings en weekly, en monthly. Comment est-ce que derrière, tu suis tout ça? C'est quoi un peu tes recos?
Eh ben, en fait, c'est là où c'est important de former les managers à l'utilisation de Médic. Pour bien implémenter Médic, il faut l'implémenter dans les outils. Il faut former les managers, avoir leur soutien. Parce que si c'est que le VP sales qui est intéressé par Médic et qu'il a pas le support de ses équipes, c'est impossible de réussir à utiliser Médic correctement. Donc, il faut vraiment que les sales, autant que les managers, soient formés. Et après, si tu veux, je trouve que pour réussir aussi, tu vois, les sales sont beaucoup en demande de formation. Les sales de toute entreprise demandent à chaque fois plus de formation. Mais quand ils les ont, en général, ils les appliquent pas toujours. Ce qui est clé, c'est qu'une méthode comme celle-là, c'est déjà, il faut pas le considérer comme du reporting, il faut le considérer comme du travail personnel c'est de la vente. C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que c'est de la vente, mais c'est pas de la vente face au client, c'est de la vente en back office. Et donc les meilleurs sales sont ceux qui vont réussir à être correctement formés sur Médic, mais à l'utiliser dans la durée.
OK. Et tu observes une phase de ramp up, de montée en puissance vis-à-vis de cette méthode, qui est de l'ordre de combien de temps généralement? Enfin, est-ce qu'il y a une moyenne qui se dégage?
De la vitesse à laquelle ça peut avoir un impact?
Ouais, déjà d'une, la vitesse à laquelle ça peut avoir un impact, mais surtout avant, la vitesse à laquelle les gens vont, on va dire, ingérer un peu la méthode, la digérer et derrière, l'appliquer parfaitement.
Ouais, c'est pour ça que juste après avoir eu une formation médique, l'important, c'est de pouvoir faire en sorte que les managers challenge, c'est un peu pour répondre à ta question précédente aussi, il faut que les managers challenge avec médique. Donc en gros, en pipe review, donc en revue de portefeuille, il faut que le manager, lorsqu'il challenge son sales sur une opportunité, il le challenge avec médique. Où est-ce que tu en es de la pain? Est-ce que tu penses qu'elle est suffisamment importante pour que le prospect puisse dépenser de l'argent? Dans le process de validation, où est-ce qu'il va y avoir les achats? Où est-ce qu'il va y avoir le légal? En gros, si tu veux, c'est toutes les questions qu'un manager doit poser, mais Medic va l'aider lui aussi à mettre un cadre au challenge qu'il va pouvoir donner aux sales sur une opportunité.
Ok, donc ouais.
C'est l'un des rituels qu'il peut y avoir. Okay. Un autre rituel qui est assez intéressant aussi, c'est je fais en sorte que plusieurs fois par quarter, il y ait un sales qui analyse une opportunité qu'il a gagnée, perdue ou qui est encore en cours. Il l'analyse avec Medic et il le partage à toute l'équipe.
Ça te fait une sorte de use case de bonne pratique et aussi un peu de, quelque part, des fois de louper parce que ça peut arriver et... Exactement. Et derrière, les gens en tirent des apprentissages.
Ouais, on a une bibliothèque avec quelques enregistrements de sales qui ont analysé une opportunité gagnée, perdue ou en cours avec Medic.
Et est-ce qu'il y a des patterns sur les opportunités perdues que tu peux nous partager, des choses qui reviennent régulièrement sur pourquoi, malgré cette méthode, en fait, le deal a été perdu?
En général, c'est parce que le sales n'a pas parié sur la bonne personne.
C'est parce que... Tu veux dire le champion?
Ouais, notamment. En fait, ça dépend de la maturité de ton entreprise et de ton organisation sales. Certains de nos concurrents sont en capacité, ils ont des sales très seniors, très formés, et ils sont en capacité d'aller chercher des interlocuteurs très haut placés. Historiquement, chez Partout, on n'a pas encore eu la capacité d'aller très très haut dans les interlocuteurs. Ça va mieux maintenant, mais donc c'est pour ça qu'historiquement, on a toujours beaucoup travaillé sur le champion. Et on crée en fait un champion très bien formé qui est capable de répondre aux objections de ses pairs en interne, et on crée une espèce de ligne de défense des opérationnels. Parce que souvent en France, le décisionnaire, il va quand même globalement laisser la décision à ses équipes. Et on fait en sorte de créer cette ligne de défense au niveau des opérationnels, évidemment en remontant au décisionnaire, mais notre première ligne d'entrée, c'est les opérationnels. Et donc, quand tu te plantes sur la personne, sur le champion sur lequel tu as parié, et que par exemple, il s'est fait virer de la boîte, ça nous est arrivé quelques fois, et ça veut dire que la personne n'allait pas dans tous les cas avoir la capacité à vendre correctement en interne. On lui aurait refusé ce projet, puisque elle n'était pas en bonne posture et que les équipes ne lui faisaient pas forcément confiance.
Ok. Et justement, ça m'intéresse peut-être d'avoir ton point de vue sur ce champion. Comment est-ce que tu fais pour lui donner des billes pour qu'ils soient en capacité de bien défendre ton deal? Est-ce qu'il y a, un nombre de points de contact, on va dire, minimum, tu vois, que tu as observé dans les deals qui ont transformé et pas transformé? Enfin voilà, est-ce que tu as des insights là-dessus?
Je trouve qu'il y a un peu deux philosophies sur la vitesse où le sales veut aborder un deal. La plupart des boîtes cherchent à raccourcir les cycles de vente parce qu'évidemment, ça va rentrer plus vite dans tes objectifs. Nous, on a plutôt tendance, et ça c'est un peu historique, on n'avait pas forcément un très bon produit avant. Maintenant, on a un très bon produit, mais du coup, c'est resté notre ADN sales. On n'avait pas un produit qui était excellent avant. Donc l'objectif, c'était d'arriver à vendre le service client qui lui était excellent. Pour vendre le service client, tu peux pas seulement le dire. Il faut que tu puisses le montrer, le vivre et que la personne le ressente. Donc pour ça, on a toujours eu une méthode de vente où on avait tendance à allonger les cycles de vente. On allongeait les cycles de vente, on séquençait notre discours pour faire en sorte d'augmenter le nombre de points de contact nécessaires avec le prospect. Plus on avait de points de contact, plus on avait l'opportunité de montrer notre connaissance sur le marché, nos connaissances produits, mais surtout sur le marché dans sa globalité. Et le fait qu'on était donc expert de notre sujet. Ça répond à ta question, non?
Ouais, ça répond. Et je vais juste compléter. Est-ce que tu as un nombre moyen de points de contact que vous observez chez Partout la durée du cycle, en fait?
J'ai pas forcément de nombre de points de contact, mais en tout cas, l'objectif qu'on a, c'est donc de séquencer la vente, de les augmenter au maximum, de les diversifier. Donc de diversifier les canaux et de diversifier le contenu. Il faut faire en sorte que chaque point de contact soit intéressant, On a tous envie d'avoir des discussions intéressantes. Donc, chaque point de contact doit être intéressant et différent. Il peut être par des canaux différents. Si jamais, je sais pas, t'as vu un post de ton prospect sur LinkedIn et qui est en lien avec ton sujet, ben tu peux lui envoyer du nurturing sur LinkedIn d'un article que nous on a écrit. Une autre fois, ça peut être un WhatsApp pour lui parce que t'as travaillé avec lui sur, tu l'as formé en fait à présenter partout en interne. Il y a toujours un moment donné dans le deal où il va te dire, moi je vais présenter ça en interne et on revient vers vous. Évidemment, tu vas chercher à aller sur ce rendez-vous, il va refuser. Et donc, il faut que tu crées cet état d'esprit de « on est une équipe, on est ensemble ». Tu fais comprendre que c'est ton champion et donc tu le formes pour aller présenter ça à sa direction. Et à ce moment-là, tu es en train de créer un contact. C'est là où tu peux diversifier tes canaux d'échange avec un WhatsApp, un SMS, « bon courage pour la présentation » et du coup, alors comment ça s'est passé, etc.
Ok, super.
Le plus de points de contact, le plus intéressant possible avec du contenu diversifié, etc.
Ok, du nurturing comme tu l'as dit, un peu comme ce qu'on voit aussi en marketing. Ok, est-ce qu'on a tout dit justement sur cette méthode MEDIC? Est-ce que tu as un dernier conseil pour les personnes qui souhaiteraient mettre en place cette méthode?
Déjà, j'ai créé un Excel en ligne, si tu veux, je pense qu'on pourra le mettre dans le lien du podcast, qui permet de pouvoir comprendre le premier niveau de MEDIC. Donc, ça veut dire que n'importe qui, en lisant cet Excel, va comprendre les premières étapes de MEDIC. Et dedans, il y a aussi la possibilité de pouvoir remplir, il y a juste à copier le lien de l'Excel, et vous pourrez remplir analyser une opportunité avec MEDIC directement dans cet Excel. Oui, voilà, en gros, je pense que c'est une méthode comme MEDIC, que ce soit MEDIC ou une autre, il y en a quelques autres, franchement, c'est nécessaire pour tout type de boîte qui fait de la vente enterprise. C'est nécessaire pour pouvoir croître plus rapidement, que ce soit dans un même pays ou à l'international, pour avoir un langage commun, pour avoir surtout une manière harmonisée de forecaster. Donc forecaster, c'est prévoir combien de chiffres on va atteindre à la fin du quarter ou dans 6 mois. Ça va raccourcir les cycles de vente si jamais c'est une stratégie, et aussi ça permet vraiment d'augmenter le win-loss ratio. On va en général gagner plus face à ses concurrents et gagner plus souvent des opportunités grâce à une méthode comme celle-là.
Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Vincent pour tous ces conseils. On mettra évidemment l'Excel dans le descriptif de l'épisode. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas vu de manière très chronophage les différents points. Donc voilà, je te remercie et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.
À bientôt Eric. Bye.
Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter Start to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager, ou envoyez-nous des étoiles sur Spotify, c'est ce qui nous aide à faire connaître l'émission et nous motive à chercher encore plus d'experts pour vous aider à scaler. À une prochaine pour un nouvel épisode.